Chapitre 6. La guerre des marmites. Vu que Sir Édouard, autrefois roi d'Angleterre, a de sa propre volonté et par le conseil commun et l'assentiment des prélats, comtes, barons et autres nobles, et de toute la communauté du royaume, résigné le gouvernement du royaume et consenti et voulu que le gouvernement du dit royaume passât à Sir Édouard, son fils et héritier, et que celui-ci gouverne et soit couronné roi, pour laquelle raison tous les grands ont prêté hommage, nous proclamons et publions la paix de notre dit seigneur Sir Édouard le fils, et ordonnons de sa part à tous que nul ne doit enfreindre la paix de notre dit seigneur le roi, car il est, et sera prêt, à faire droit à tous ceux du dit royaume, envers et contre tous, tant aux hommes de peu qu'aux grands. Et si qui que ce soit réclame quoi que ce soit d'un autre, qu'il le fasse dans la légalité, sans user de la force ou autre violence. Cette proclamation fut lue le 24 janvier 1327 devant le Parlement d'Angleterre, et un conseil de régence aussitôt institué. La reine présidait ce conseil de 12 membres, parmi lesquels les comtes de Kent, Norfolk et Lancastre, le maréchal Sir Thomas Wake, et le plus important de tous, Roger Mortimer, baron de Wigmore. Le dimanche 1er février, le couronnement d'Édouard III eut lieu à Westminster. La veille, Henri Torcol avait armé chevalier le jeune roi en même temps que les trois fils aînés de Roger Mortimer. Lady Jeanne Mortimer, qui avait recouvré sa liberté et ses biens, mais perdu l'amour de son époux, était présente. Elle n'osait regarder la reine, et la reine n'osait la regarder. Lady Jeanne souffrait sans répit de cette trahison des deux êtres au monde qu'elle avait le plus aimé et le mieux servi. 15 ans de présence auprès de la reine Isabelle, de dévouement, d'intimité, de risques partagés, devait-il recevoir pareil paiement ? 23 ans d'union avec Mortimer, auquel elle avait donné 11 enfants, devait-il s'achever de la sorte? En ce grand bouleversement qui renversait les destins du royaume et amenait son époux au fait de la puissance, Lady Jeanne, si loyale toujours, se retrouvait parmi les vaincus. Et pourtant, elle pardonnait. Elle s'effaçait avec dignité parce qu'il s'agissait justement des deux êtres qu'elle avait le plus admirés et qu'elle comprenait que ces deux êtres se fussent aimés d'un inévitable amour dès l'instant que le sort les avait rapprochés. À l'issue du sacre, la foule fut autorisée à pénétrer dans l'évêché de Londres pour y assommer l'ancien chancelier Robert de Baldock. Mais Sir Jean de Hainaut reçut dans la semaine une rente de 1000 marks esterlin à prendre sur le produit de l'impôt des laines et cuirs dans le port de Londres. Messire Jean de Hainaut serait volontiers resté plus longtemps à la cour d'Angleterre, mais il avait promis de se rendre à un grand tournoi, à Condé-sur-Lescaut, où s'était promis rencontre toute une foule de princes, dont le roi de Bohême. On allait jouter, parader, rencontrer belles dames qui avaient traversé l'Europe pour voir s'affronter les plus beaux chevaliers. On allait séduire, danser, se divertir de fêtes et de scènes jouées. Messire Jean de Hainaut ne pouvait manquer cela, ni de briller, plume sur le haume, au milieu des lys sablés. Il accepta d'emmener 15 de chevaliers anglais qui voulaient participer au tournoi. En mars, fut enfin signé avec la France le traité qui réglait la question d'Aquitaine, au plus grand détriment de l'Angleterre. Il était impossible à Mortimer de refuser, au nom d'Édouard III, les clauses qu'il avait naguère lui-même négociées pour qu'elles fussent imposées à Édouard II. On soldait ainsi l'héritage du mauvais règne. De plus, Mortimer s'intéressait peu à la Guyenne, où il n'avait pas de possession, et toute son attention à présent se reportait, comme avant son emprisonnement, vers le pays de Galles et les marches galloises. Les envoyés qui vinrent à Paris ratifier le traité virent le roi Charles IV fort triste et défait, parce que l'enfant qui était né à Jeanne d'Évreux au mois de novembre précédent, une fille alors qu'on espérait si fort un garçon, n'avait pas vécu plus de 2 mois. L'Angleterre, vaille que vaille, se remettait en ordre quand le vieux roi d'Écosse, Robert Bruce, bien que déjà fort avancé en âge et de surcroît atteint de la lèpre, envoya vers le 1er avril, 12 jours avant Pâques, défier le jeune Édouard III et l'avertir qu'il allait envahir son pays. La première réaction de Roger Mortimer fut de faire changer l'ex-roi Édouard II de résidence. C'était prudence. En effet, On avait besoin d'Henri de Lancastre à l'armée, avec ses bannières. Et puis Lancastre, d'après les rapports qui venaient de Kenilworth, semblait traiter avec trop de douceur son prisonnier, relâchant la surveillance et laissant à l'ancien roi quelques intelligences avec l'extérieur. Or, les partisans des Despenser n'avaient pas tous été exécutés, tant s'en fallait. Le comte de Warren, plus heureux que son beau-frère le comte d'Arundel, avait pu s'échapper. Certains se terraient dans leur manoir ou bien dans des demeures amies, attendant que l'orage fût passé. D'autres avaient fui le royaume. On pouvait se demander même si le défi lancé par le vieux roi d'Écosse n'était pas de leur inspiration. D'autre part, le grand enthousiasme populaire qui avait accompagné la libération commençait à décroître. De gouverner depuis 6 mois, Roger Mortimer était déjà moins aimé, moins adulé, car il y avait toujours des impôts et des gens qu'on emprisonnait parce qu'ils ne les payaient pas. Dans les cercles du pouvoir, on reprochait à Mortimer une autorité tranchante qui s'accentuait de jour en jour et les grandes ambitions qu'il démasquait. À ses propres biens repris sur le comte d'Arundel, il avait ajouté le comté de Glamorgan ainsi que la plupart des possessions de Hugh le Jeune. Ses 3 gendres, car Mortimer avait déjà 3 filles mariées, le lord de Berkeley, le comte de Charlton, le comte de Warwick, étendaient sa puissance territoriale. Reprenant la charge de grand juge de Galles, autrefois détenu par son oncle de Chirk, ainsi que les terres de celui-ci, il songeait à se faire créer comte des Marches, ce qui lui eût constitué, à l'ouest du royaume, une fabuleuse principauté quasi indépendante. Il avait en outre réussi à se brouiller déjà avec Adam Orleton. Ce dernier, dépêché en Avignon pour hâter les dispenses nécessaires au mariage du jeune roi, avait sollicité du pape l'important évêché de Worcester, vacant en ce moment-là. Mortimer s'était offensé de ce qu'Orleton ne lui eût pas demandé un agrément préalable et avait fait opposition. Édouard II ne s'était pas comporté autrement envers le même Orleton pour le siège de Hereford. La reine subissait forcément le même recul de popularité. Et voilà que la guerre se rallumait, la guerre d'Écosse, une fois de plus. Rien donc n'était changé. On avait trop espéré pour n'être pas déçu. Il suffisait d'un revers des armées, d'un complot qui fit évader Édouard II, et les Écossais, alliés pour la circonstance à l'ancien parti des Spencer, trouveraient là un roi tout prêt à remettre sur son trône, et qui leur abandonnerait volontiers les provinces du Nord en échange de sa liberté et de sa restauration. Dans la nuit du 3 au 4 avril, l'ancien roi fut tiré de son sommeil et prié de s'habiller en hâte. Il vit entrer un grand cavalier dégingandé, osseux, aux longues dents jaunes, aux cheveux sombres et raides tombant sur les oreilles. « Où me conduis-tu, Maltravers ?» dit Édouard avec épouvante en reconnaissant ce baron qu'il avait autrefois spolié et banni, et dont la tête fleurait l'assassinat. « Je te conduis, Plantagenet, en un lieu où tu seras plus en sûreté. Et pour que cette sûreté soit complète, tu ne dois pas savoir où tu vas afin que ta tête ne risque pas de le confier à ta bouche. » Maltravers avait pour instruction de contourner les villes et de ne pas traîner en chemin. Le 5 avril, après une route faite tout entière au grand trot ou au galop et seulement coupée d'un arrêt dans une abbaye proche de Gloucester, l'ancien roi entra au château de Berkeley pour y être remis à la garde d'un des gendres de Mortimer. L'host anglais, d'abord convoqué à Newcastle et pour l'ascension, se réunit à la Pentecôte et dans la ville d'York. Le gouvernement du royaume avait été transporté là, et le Parlement y tint une session, tout comme au temps du roi déchu quand l'Écosse attaquait. Bientôt arrivèrent messire Jean de Hainaut et ses ennuyés, qu'on n'avait pas manqué d'appeler à la rescousse. On revit donc monter sur leurs gros chevaux roux et tout fiévreux encore des grands tournois de Condé sur l'Escaut, les sires de Ligne, d'Anguin, de Mons et de Sarre, et Guillaume de Bailleul, Perceval de Sémery et Sens de Boussois, et Ulfard de Guistel, qui avaient fait triompher dans les joutes les couleurs de Hainaut, et messire Thierry de Walcourt, Race de Grèze, Jean Pilastre et les 3 frères de Harelbeck sous les bannières du Brabant. Et encore, des seigneurs de Flandre, du Cambrésis, de l'Artois, et avec eux, le fils du marquis de Juliers. Jean de Hainaut n'avait eu qu'à les rassembler à Condé. On passait de la guerre au tournoi et du tournoi à la guerre. Ah, que de plaisir et de nobles aventures! Des réjouissances furent données à York en l'honneur du retour des ennuyés. Les meilleurs logements leur furent affectés. On leur offrit fêtes et festins avec abondance de viande et de poulaille. Les vins de Gascogne et du Rhin coulaient à barils percés. Ce traitement fait aux étrangers irrita les archers anglais, qui étaient six bons milliers parmi lesquels nombre d'anciens soldats du feu comte d'Arundel le décapitaient. Un soir, une rixe, comme il en survient banalement parmi les troupes stationnées, éclata pour une partie de dés entre quelques archers anglais et les valets d'armes d'un chevalier de Brabant. Les Anglais, qui n'attendaient que l'occasion, appellent leurs camarades à l'aide. Tous les archers se soulèvent pour mettre à mal les goujats du continent. Les ennuyés courent à leur cantonnement, s'y retranchent. Leurs chefs de bannière, qui étaient affestoyés, sortent dans les rues, attirés par le bruit, et sont aussitôt assaillis par les archers d'Angleterre. Ils veulent chercher refuge dans leur logis, mais n'y peuvent pénétrer, car leurs propres hommes s'y sont barricadés. La voici sans armes ni défense, cette fleur de la noblesse de Flandre. Mais elle est composée de solides gaillards. Messire Perceval de Semery, Fastre de Rue et Sens de Boussois s'étant saisi de lourds leviers de chêne trouvés chez un charron, s'adossent à un mur et assomment à eux trois une bonne soixantaine d'archers qui appartenaient à l'évêque de Lincoln. Cette petite querelle entre alliés fit un peu plus de 300 morts. Les 6000 archers, oubliant tout à fait la guerre d'Écosse, ne songeaient qu'à exterminer les ennuyés. Messire Jean de Hainaut, outragé, furieux, voulait rentrer chez lui, à condition encore qu'on levât le siège autour de ses cantonnements. Enfin, après quelques pendaisons, les choses s'apaisèrent. Les dames d'Angleterre qui avaient accompagné leur mari à Lost firent 1000 sourires aux chevaliers de Hainaut, 1000 prières pour qu'ils restassent, et leurs yeux se mouillèrent. On cantonna les ennuyés à une demi-lieue du reste de l'armée, et un mois passa de la sorte à se regarder comme chiens et chats. Enfin, on décida de se mettre en campagne. Le jeune roi Édouard III, pour sa première guerre, s'avançait à la tête de 8000 armures de fer et de 30 000 hommes de pied. Malheureusement, les Écossais ne se montraient pas. Ces rudes hommes faisaient la guerre sans fourgon ni convoi. Leurs troupes légères n'emportaient pour bagage qu'une pierre plate accrochée à la selle et un petit sac de farine. Ils savaient vivre de cela pendant plusieurs jours, mouillant la farine à l'eau des ruisseaux et la faisant cuire en galettes sur la pierre chauffée au feu. Les Écossais s'amusaient de l'énorme armée anglaise. Prenaient le contact, escarmouchaient, se repliaient aussitôt, franchissaient et repassaient les rivières, attiraient l'adversaire dans les marais, les forêts épaisses, les défilés escarpés. On errait à l'aventure entre la Tyne et les monts Cheviot. Un jour, les Anglais entendent une grande rumeur dans un bois où ils progressaient. L'alarme est donnée. Chacun s'élance, la visière baissée, l'écu au col, la lance au poing sans attendre père, frère ni compagnon, et ceci pour rencontrer tout penaudement une harde de cerfs qui fuyait affolée devant les bruits d'armure. Le ravitaillement devenait malaisé. Le pays ne produisait rien. Des marchands acheminaient péniblement quelques denrées qu'ils vendaient 10 fois leur valeur. Les montures manquaient d'avoine et de fourrage. Là-dessus, la pluie se mit à tomber, sans désemparer, pendant une grande semaine. Les panneaux de sel pourrissaient sous les cuisses. Les chevaux laissaient leur ferrure dans la boue. Toute l'armée rouillait. Le soir, les chevaliers usaient le tranchant de leur épée à tailler des branchages pour se construire des huttes. Et toujours, les Écossais restaient insaisissables. Le maréchal de Lost, Sir Thomas Wake, était désespéré. Le comte de Kent regrettait presque la réole. Au moins là-bas, le temps était beau. Henry Torcol avait des rhumatismes dans la nuque. Mortimer s'irritait et se lassait de courir sans cesse de l'armée au Yorkshire, où se trouvaient la reine et les services du gouvernement. Le désespoir qui engendre les querelles commençait à s'installer dans les troupes. On parlait de trahison. Un jour, tandis que les chefs de bannière discutaient très haut de ce que l'on n'avait pas fait, de ce que l'on aurait dû faire, le jeune roi Édouard III réunit quelques écuyers d'environ son âge et promit la chevalerie ainsi qu'une terre d'un revenu de 100 livres à qui découvrirait l'armée d'Écosse. Une vingtaine de garçons, entre 14 et 18 ans, se mirent à battre la campagne. Le premier qui revint se nommait Thomas de Rokesby. Tout haletant et épuisé, il s'écria « Sir Edward, les escottes sont à 4 lieues de nous dans une montagne où ils se tiennent depuis 1 semaine, sans plus savoir où vous êtes que vous ne savez où ils sont. » Aussitôt, le jeune Édouard fit sonner les trompes, rassembler l'armée dans une terre qu'on appelait la Lande Blanche, et commanda de courir aux Écossais. Les grands tournoyeurs en étaient tout éberlués. Mais le bruit que faisait cette énorme ferraille avançant par les montagnes parvint de loin aux hommes de Robert Bruce. Les chevaliers d'Angleterre et de Hainaut, arrivant sur une crête, s'apprêtaient à dévaler l'autre versant lorsqu'ils aperçurent soudain toute l'armée écossaise, à pied et rangée en bataille, les flèches déjà encochées dans la corde des arcs. On se regarda de loin sans oser s'affronter, car le lieu était mal choisi pour lancer les chevaux. On se regarda pendant 22 jours. Comme les Écossais ne semblaient pas vouloir bouger d'une position qui leur était si favorable, comme les chevaliers ne voulaient pas livrer combat dans un terrain où ils ne pouvaient pas se déployer, on demeura donc de part et d'autre de la crête, chaque adversaire attendant que l'autre voulût se déplacer. On se contentait d'escarmoucher, la nuit généralement, en laissant ces petites rencontres à la piétaille. Le plus haut fait de cette étrange guerre, que se livraient un octogénaire lépreux et un roi de 15 ans, fut accompli par l'Écossais Jacques de Douglas, qui, avec 200 cavaliers de son clan, fondit par une nuit de lune sur le camp anglais, renversa ce qui lui barrait passage en criant « Douglas ! Douglas !» s'en vint couper 3 cordes à la tente du roi et tourna bride. De cette nuit-là, les chevaliers anglais dormirent dans leurs armures. Et puis un matin, avant l'aurore, on captura 2 trompeurs de l'armée d'Écosse, 2 guetteurs qui vraiment semblaient vouloir qu'on les prît et qui, amenés devant le roi d'Angleterre, lui dirent « Sire, que cherchez-vous ici? Nos escottes sont retournées dans les montagnes, et Sir Robert, notre roi, nous a dit de vous en avertir, et aussi qu'il ne vous combattrait plus pour cette année, à moins que vous ne le veniez poursuivre. » Les Anglais s'avancèrent, prudents, craignant un piège, et soudain furent devant 400 marmites et chaudrons de campement, pendus en ligne, et que les Écossais avaient laissés pour ne point s'alourdir ni produire de bruit dans leur retraite. Également, on découvrit, formant un énorme tas, 5 000 vieux souliers de cuir avec le poil dessus. Les Écossais avaient changé de chaussures avant de partir. Il ne restait, comme créature vivante dans ce camp, que 5 prisonniers anglais, tout nus, liés à des pieux, et dont les jambes avaient été brisées à coups de bâton. Pour suivre les Écossais dans leurs montagnes, à travers ce pays difficile, hostile, où l'armée, fort fatiguée déjà, aurait à mener une guerre d'embuscade pour laquelle elle n'était pas entraînée, apparaissait comme une pure folie. La campagne fut déclarée terminée. On revint à York et Lost fut dissous. Messire Jean de Hainaut fit le compte de ses chevaux morts ou hors d'usage et présenta un mémoire de 14 000 livres. Le jeune roi Édouard n'avait pas autant d'argent disponible dans son trésor et devait aussi payer les soldes de ses propres troupes. Alors messire Jean de Hainaut, ayant grand geste comme de coutume, se porta garant auprès de ses chevaliers de toutes les sommes qui leur étaient dues par son futur neveu. Au cours de l'été, Roger Mortimer, qui n'avait aucun intérêt dans le nord du royaume, bâcla un traité de paix. Édouard III renonçait à toute suzeraineté sur l'Écosse et reconnaissait Robert Bruce comme roi de ce pays, ce qu'Édouard II, tout le long de son règne, n'avait jamais accepté. En outre, David Bruce, fils de Robert, épousait Jeanne d'Angleterre, seconde fille de la reine Isabelle. Était-ce bien la peine, pour un tel résultat, d'avoir déchu de ses pouvoirs l'ancien roi qui vivait reclus à Berkeley ?